DW. Info Matin.
Mardi 4 mai 2021, merci de nous rejoindre sur la DW pour Info Matin. Il est 7h en temps universel, 8h à N'Djamena au Tchad, 9h ici en Allemagne. Bonjour Georges Ibrahim Tonkara.
Bonjour Eric Topona, bonjour à toutes et à tous.
Et dans l'actualité ce mardi matin, le Tchad.
Alors que la transition politique se met en place deux semaines après le décès du président Idriss Déby Itno, la mission du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine poursuit sa mission sur place.
Rentrée parlementaire des députés d'une partie de la 7e législature, c'est en République centrafricaine. Les populations attendent beaucoup des élus.
En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a décrété un état de siège dans deux provinces de l'est du pays. Une mesure fortement critiquée, on le verra, par le mouvement citoyen Lucha.
Info Matin, tout comme hier, c'est Ali Farhad qui va nous présenter l'actualité sportive. Et avant tout cela, Georges Ibrahim Tunkara, je vous repasse le micro pour nous présenter le bulletin d'information.
L'Inde, le géant asiatique, a enregistré 357 229 nouveaux cas de coronavirus et 3449 décès au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de personnes infectées à 20 300 000 et plus de 222 400 décès, selon le ministère de la Santé. Mais de nombreux experts estiment que le nombre réel est beaucoup plus élevé. Les hôpitaux sont toujours submergés et à court de réserves d'oxygène, de médicaments, de lits, malgré l'afflux d'aide internationale ces derniers jours. Au moins 20 morts et plus de 70 blessés lorsqu'un pont s'est effondré hier nuit sur une voie du métro de Mexico sur laquelle circulait un train et des véhicules. On ignore pour l'instant les causes de ce drame. Et toujours au Mexique, un journaliste a été assassiné hier, quelques heures seulement, après que ses proches eurent signalé sa disparition.
Après 27 ans de mariage, il décide de se séparer.
Il s'agit du milliardaire Bill Gates, fondateur de Microsoft et l'un des hommes les plus riches du monde, et sa femme Melinda Gates. Ils ont en effet annoncé hier leur divorce. Après mûres réflexions et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage, ont tweeté dans un communiqué commun les deux Américains qui résident dans l'État de Washington. Les Gates, qui ont trois enfants, ont ajouté qu'ils continueraient à travailler ensemble au sein de leur fondation, la Bill and Melinda Gates Foundation, qui lutte contre la pauvreté et les maladies, mais qu'ils ne pensaient plus pouvoir évoluer ensemble en tant que couple. La fortune de Bill Gates est estimée à 124 milliards de dollars. C'est la quatrième grande fortune au monde et c'est plus que le budget des pays comme la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Burkina, le Mali, tous ces pays réunis.
Et Georges Ibrahim Tunkara, la vôtre, on peut l'estimer à combien la fortune ?
Ma fortune, ce sont les collègues, ce sont les amis, la famille et tous les auditeurs qui nous écoutent.
Mais je sais que vous me le direz juste après Info Matin. Alors, la suite donc du bulletin d'information, Georges Ibrahim Tunkara.
Au moins une trentaine de civils ont été tués hier dans l'attaque d'un village de l'est du Burkina Faso, dans l'est du Burkina Faso, et c'est l'une des plus meurtrières commises par des djihadistes présumés dans ce pays depuis 2015, et cela une semaine après l'exécution de trois Européens dans la même région. La police allemande a arrêté la nuit dernière à Berlin un suspect en relation avec des lettres de menace signées Nsu Svay Null, une référence à un groupuscule néo-nazi allemand dont les membres ont commis une dizaine d'assassinats racistes pendant la décennie 2000. L'homme de 53 ans avait déjà été condamné dans le passé pour des crimes attribués à la mouvance d'extrême droite. Le suspect, chômeur, est fortement soupçonné d'avoir envoyé depuis août 2018 dans tout le pays une série de lettres de menaces au contenu incitant à la haine, insultant et menaçant sous le pseudonyme Nsu Svay Null. C'est ce qu'a déclaré le parquet.
Voilà, merci Georges Ibrahim Tunkara pour le résumé de l'actualité internationale. Info Matin, il est 7h et bientôt 5 minutes en temps universel, 8h et 5 minutes à Fianga et Molfoudeï, c'est dans le sud-ouest du Tchad.
DW.
Au Tchad, donc 2 semaines après l'annonce officielle du décès du président Idriss Déby Itno, le premier ministre de transition Albert Paimi Padaké a formé dimanche soir, on l'évoquait sur cette même antenne, son gouvernement. Sa mission, conduire la transition en cours pendant 18 mois et aboutir à l'organisation d'élections générales libres et transparentes.
Et pendant ce temps, la mission du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine poursuit son séjour à N'Djamena, la capitale. Elle multiplie les consultations avec les acteurs politiques et ceux de la société civile.
Oui, la délégation conduite par le Nigérian Bankole Adeoye et l'ambassadeur djiboutien Mohamed Idriss Farah, président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Cette délégation a rencontré les nouvelles autorités militaires de transition et plusieurs acteurs tchadiens.
Écoutez à ce sujet, Mohamed Idriss Farah, le président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il est interrogé par notre correspondant N'Djamena, Blaise Daruston.
Nous sommes arrivés ici jeudi dernier et ça va faire bientôt une semaine. Nous avons vu tous les acteurs politiques, bien sûr le Conseil militaire de transition, nous avons vu le président de l'Assemblée nationale, nous avons vu le président de la Cour suprême, nous avons vu le corps diplomatique africain mais également international, nous avons vu la société civile, nous avons vu l'ensemble des acteurs, les partis d'opposition également. Donc ceci nous permet d'avoir une vue beaucoup plus globale de la situation qui prévaut ici et il était important d'écouter tous les acteurs.
Au vu des consultations que vous avez menées jusque-là, est-ce qu'on va vers un retour à l'ordre constitutionnel comme l'exigent les textes de l'Union africaine ?
Ça, c'est le Conseil qui va déterminer. Le Conseil de paix et de sécurité va siéger dans quelques jours, de retour à Addis Abeba, sur la base du rapport que nous allons produire et les recommandations qui seront dans ce rapport. Je serai incapable de vous dire au moment où on se parle quel sera le choix du Conseil. Le Conseil comporte 15 pays membres à Addis Abeba et donc nous allons voir au niveau du Conseil dans les jours qui viennent.
Est-ce que c'est possible que l'Union africaine prenne des sanctions contre le Tchad, comme ce fut le cas dans d'autres pays?
Bien sûr, les uns pensant qu'il fallait tout de suite appliquer les textes et le protocole du Conseil de paix et de sécurité, les autres disant qu'il faut qu'on examine. Donc c'est sur cette base-là et dans la volonté d'avoir le maximum d'informations avant décision que cette mission de haut niveau a été dépêchée. C'est une première dans les annales de l'Union africaine qu'une mission d'une telle importance regroupant 5 régions de l'Union africaine, c'est-à-dire les 5 membres du Conseil de paix et de sécurité. Pour le nord, c'était l'Égypte. Pour l'est, c'est Djibouti. Pour le centre, c'est le Cameroun. Pour l'ouest, c'était le Ghana. Et pour l'Afrique australe, c'était Lesotho. Ceci par souci d'avoir l'ensemble du continent avec nous. Et puis, nous avions également la CEAC qui était avec nous, avec son commissaire à la paix et à la sécurité, mais également le président en exercice de l'Union africaine, la RDC, qui a envoyé son ambassadeur, sans oublier, bien sûr, la CINSA. Tout ceci pour que l'ensemble du continent africain soit embarqué dans cette mission extrêmement importante. Mais c'est d'abord aux Tchadiens et aux Tchadiennes de vouloir sortir leur pays des difficultés. L'Union africaine, les partenaires de manière générale, seront là pour aider. Mais surtout, il reviendra à eux de s'entendre politiquement. Donc nous allons voir comment ces choses-là vont se dérouler.
Voilà Mohamed Idriss Farah, le président du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, qui était interrogé à N'Djamena par Blaise Daruston. Il faut ajouter que la France a salué hier la formation du gouvernement de transition, dirigé donc par un premier ministre civil en la personne d'Albert Paimi Padaké, et un gouvernement donc qui inclut plusieurs membres de l'opposition politique tchadienne.
Et Paris rappelle dans la foulée son attachement à la stabilité, à l'intégrité territoriale du Tchad, selon un communiqué de la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.
Et après la formation du gouvernement de transition, l'on attend maintenant la mise en place des autres organes de la transition, notamment le Conseil national de transition, le Parlement provisoire, qui, selon nos sources, ne va pas tarder à se mettre en place.
Le temps presse donc et le Tchad doit en effet vite se réorganiser pour faire face à de nombreux défis au plan interne et surtout sécuritaire dans le Sahel.
Oui, et Georges Ibrahim Tounkara, puisque vous parlez de sécurité dans le Sahel, au moins une trentaine de civils ont été tués hier dans l'attaque d'un village de l'est du Burkina Faso. C'est l'une des attaques les plus meurtrières commises par des djihadistes présumés dans ce pays depuis 2015, une semaine après l'exécution de 3 Européens, toujours dans la même région donc de l'est du Burkina Faso.
Et l'attaque aurait été menée par une centaine de personnes et aurait visé le village de Kodiel, c'est dans la commune de Futuri. Les terroristes ont également blessé une quinzaine de personnes, dont certains ont été évacués au centre hospitalier de Fada Ngourma pour des soins.
Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
Voilà, c'est désormais une tradition. Vous pouvez toujours commenter tous les sujets d'actualité de votre choix. Info Matin, 9h et bientôt 10 minutes à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, la RDC, où le président Félix Tshisekedi a décrété vendredi dernier un état de siège dans deux provinces de l'est de son pays, le Nord Kivu et l'Ituri. Cette décision a été prise en raison de la gravité de la situation sécuritaire dans ces deux provinces.
Une décision cependant critiquée par le mouvement citoyen Lucha, qui demande au président Tshisekedi d'y renoncer et suggère à la place la convocation d'un dialogue tripartite entre le gouvernement, la MONUSCO, c'est-à-dire la mission des Nations Unies au Congo, et les principales organisations de la société civile de la région.
Voilà, pour en savoir plus, on retrouve tout de suite Zanem Niti Zadi, qui est notre correspondant à Goma.
Ce sera la première fois depuis son accession à l'indépendance que la République démocratique du Congo connaîtra cette mesure d'exception qui est reconnue par la Constitution. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a donc décrété un état de siège partiel pour lutter contre l'insécurité dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Mais pour le mouvement citoyen Lucha, cette décision n'aura aucun effet pour amener la paix dans la région. Le mouvement citoyen propose à la place un renforcement de l'armée et l'ouverture d'un dialogue pour élaborer des stratégies qui répondent aux attentes de la population. Ghislain Muyiwa est militant de la Lucha.
La première chose, c'est de renforcer notre armée. La renforcer, ça ne veut pas dire proclamer un état de siège. Ce n'est pas ce que nous demandons. Renforcer l'armée, c'est de lui doter de moyens logistiques considérables. Proposons aussi qu'il y ait quand même un dialogue entre le gouvernement, les civils et la MONUSCO. Et à partir de ces dialogues, nous allons dénicher le vrai problème. C'est à partir de ces problèmes-là qu'on va décider si l'état de siège constitue une solution à un de ces problèmes. Alors, on sera d'accord qu'il soit déclaré. Si alors l'état des sièges n'est pas une solution et il faut juste les surseoir définitivement.
Évariste Iragui est un chercheur en droit congolais. Il rappelle que selon la Constitution, cette mesure peut être prise dans l'objectif de lutter contre une menace grave qui peut empêcher le bon fonctionnement des institutions. Mais il rappelle aussi que l'état d'urgence restreint de manière importante les droits et libertés des citoyens.
C'est une période d'exception et qui a pour conséquence le fait que ça doit avoir des restrictions sur les droits et libertés des citoyens. Et qui dit droits et libertés des citoyens, ils sont nombreux. Nous avons la liberté d'aller et venir qui peut avoir des restrictions. Nous avons la liberté d'expression qui peut avoir des restrictions. Nous avons la liberté de manifester qui peut avoir des restrictions. Et ça peut avoir des conséquences beaucoup plus larges sur le quotidien de la population.
Les modalités d'application de cette mesure devraient être dévoilées prochainement, mais l'état d'urgence n'entrera en vigueur que lorsque l'ordonnance présidentielle sera publiée par le cabinet du chef de l'État. Zanem Netizaidi à Goma pour la Deutsche Welle.
Et justement, l'ordonnance présidentielle a été annoncée, a été publiée hier par le porte-parole du chef de l'État congolais, Kasongo Mwemba Yamba. L'état de siège est proclamé à compter du jeudi 6 mai prochain dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, situées donc dans l'est de la République démocratique du Congo, et cela pour une durée de 30 jours. Et par conséquent, l'action de juridiction civile sera substituée par la juridiction militaire, indique le communiqué lu donc par le porte-parole du président Tshisekedi hier sur les antennes de la télévision congolaise.
Voilà le porte-parole qui s'appelle Kasongo Mwemba Yamba. Et je rappelle à nos auditeurs et auditrices que le débat sous l'arbre à palabre cette semaine sera justement consacré à cette question d'insécurité dans l'est de la RD Congo. Direction la République centrafricaine, juste de l'autre côté du fleuve Ubangi, voilà, donc qui sépare la RDC à la RCA. Là-bas, 90 députés de la 7e législature sur 140 ont pris fonction hier pour un mandat de 5 ans.
Dans ce pays, la Centrafrique, donc ravagée par l'insécurité et les rivalités politiques, les attentes de la population sont fortes. Jean-Fernand Kuna, notre correspondant à Bangui, a recueilli les témoignages de quelques Centrafricains.
La séance est ouverte.
C'est sur ce temps que les députés de la 7e législature ont amorcé leur mandat de 5 ans. Mais ceci débute dans un contexte difficile et à un moment où les Centrafricains aspirent à un retour de la paix. C'est le cas d'Élisée Nguimalé qui compte sur l'Assemblée nationale pour clarifier la coopération du pays avec la Russie et aussi affronter les questions sécuritaires.
Nous pensons et nous espérons que l'Assemblée nationale doit mener à bien sa mission, voir aussi de quelle manière on doit désormais engager la coopération entre l'État centrafricain et avec d'autres pays d'extérieur. La question qui fait actualité aujourd'hui dans notre pays, c'est la présence russe sur notre territoire. Alors, l'Assemblée nationale doit tirer au clair la coopération qui existe entre l'État centrafricain et la Fédération de la Russie. Parce que les peuples centrafricains ne savent pas exactement qu'est-ce qui lie réellement les éléments russes qui sont là. Est-ce que ce sont des militaires ou bien c'est des mercenaires ou... Il y a encore un flou.
Mais il n'y a pas que les préoccupations sécuritaires. Les problèmes sociaux tels que la santé, l'éducation et la protection des femmes et des enfants sont aussi prioritaires. Fornel Poutou exprime ainsi ses attentes.
Qu'ils veillent à ce que certaines lois discriminatoires à l'égard de la femme et de la jeune fille soient révisées. Si nous prenons le cas du code de la famille, notre souhait pour cette 7e législature, c'est de discuter et voter des lois qui vont en faveur de la femme et de la jeune fille.
Alors que la loi sur le fonds de développement des sports peine à être adoptée, Bienvenue souhaite pour sa part que la Centrafrique puisse être connue pour d'autres raisons que la guerre.
Et aujourd'hui, on ne peut pas faire les sports sans argent. Et pour avoir de l'argent, il faudrait un mécanisme de mobilisation et de gestion de ces fonds. On attend beaucoup de ces législatures pour qu'ils puissent vraiment s'intéresser à ça. Puissent connaître la RCA aussi autrement à travers les sports. Ce n'est pas seulement à travers les armes ou bien les guerres.
Pour satisfaire ces attentes et redonner espoir à la population, les élus doivent transcender les clivages et jouer leur rôle de contrôle des actions du gouvernement, ce qui est un défi au regard de la configuration politique de cette assemblée. Jean Fernand, Kouina Abongui pour la Deutsche Welle.
Georges Ibrahim Tounkara, vous l'annonciez déjà hier dans le journal du soir. Le journaliste franco-tunisien Béchir Ben Yamed, qui avait fondé il y a une soixantaine d'années Jeune Afrique, est décédé hier à l'âge de 93 ans. L'homme de presse est mort à Paris où il était hospitalisé depuis la fin du mois de mars après avoir été contaminé à la Covid-19.
Et Béchir Ben Yamed, après avoir créé un premier magazine d'action en 1956, a lancé en 1960 à Tunis, Afrique Action, rebaptisé l'année suivante Jeune Afrique. Et il faut savoir, Eric, que plusieurs dirigeants du continent lui ont rendu un vibrant hommage hier à l'annonce de sa disparition.
Et je le confirme, Georges Ibrahim Tounkara, vous êtes l'un des lecteurs assidus de Jeune Afrique. Info en bref, au Soudan, Mini Arko Minawi, l'ancien rebelle de l'armée de libération du Soudan, a été nommé gouverneur de la province du Darfour, dans l'ouest du pays, par le premier ministre soudanais. Il devient le plus haut responsable de l'État dans sa province qui est toujours déchirée par des violences.
Un choix qui n'est pas anodin. Mini Minawi était pressenti depuis le début de l'année. L'ancien enseignant de 52 ans, rebelle de la première heure et originaire du nord Darfour, était d'ailleurs officiellement candidat à ce poste.
Voilà, le Darfour, hein, Georges Ben Tounkara, pour ceux qui connaissent un peu la carte de l'Afrique, c'est situé à l'ouest donc, du pays, mais non loin de la frontière donc avec le Tchad, hein, le Tchad donc qui est situé à l'est donc de cette province du Darfour. Et on retrouve les mêmes communautés, hein, les communautés.
C'est Zahawa. Une région que vous connaissez bien, Eric.
Voilà, une région donc qui est non loin donc de la frontière avec le Tchad. Allez, on passe au sport.
DW, le sport. Ali Fahad.
Si le Gabon est un pays de foot, les joueurs qui évoluent dans le championnat local peinent à joindre les deux bouts. Entre les salaires non versés et les contrats non respectés, les footballeurs professionnels se retrouvent souvent dans une situation très précaire. Ali Farhat.
Malgré l'arrêt du championnat depuis plus d'un an, Chico Sassou continue à taquiner le cuir. Ce défenseur de 32 ans, qui a notamment évolué pour le CF Mounana, sait que l'intensité n'est pas au rendez-vous lors des parties improvisées le week-end, mais continue de jouer pour garder la forme et être prêt le jour où le championnat reprendra, même s'il ne se fait pas trop d'illusions quant à l'avenir.
Parce que les deux dernières années avant le Covid, la situation était déjà difficile. C'est-à-dire qu'on jouait un championnat sur 7 à 8 mois, on ne recevait pratiquement qu'un mois ou deux mois de salaire. Donc c'était ça, on faisait le sport, on jouait le championnat parce qu'on aimait le foot. Mais là aujourd'hui c'est compliqué parce qu'on nous fait croire qu'avec le Covid on ne peut plus rien faire.
À l'instar de Chico Sassou, de nombreux joueurs ne percevaient en moyenne que 2 mois de salaire sur 12, selon une enquête de l'ANFPG, l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. Des salaires mensuels peu élevés, environ 100 000 francs CFA, soit 150 euros, qui ne sont plus du tout versés depuis l'arrêt du championnat en mars 2020. Pour Rémi Ebanega, président de l'ANFPG, la situation est plus que critique.
Depuis plus d'un an déjà, les joueurs sont sans activité parce que le gouvernement a arrêté déjà les activités. Et quand on se souvient qu'avant même la crise de Covid-19, la situation des footballeurs était déjà très compliquée. La majorité était dans une situation d'extrême précarité. On voyait qu'avec la crise qui s'est installée, le manque d'activité parce qu'ils ne peuvent plus exercer leur métier, c'est vraiment le chaos en fait.
Pour subvenir à leurs besoins, certains ont décidé de choisir une autre voie. C'est le cas de Gamamba Souleymane, footballeur devenu peintre en bâtiment. S'il gagne bien mieux sa vie dans ce domaine, il s'inquiète pour ses congénères qui n'ont rien d'autre dans leur vie.
Des gars qu'on manque aujourd'hui du respect, qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à se vêtir. Quel est ce sentiment que je peux avoir si ce n'est un sentiment de regret? J'ai peur pour leur avenir parce qu'ils n'ont que le football.
Aidé par la FIFPRO, le syndicat mondial des footballeurs professionnels, l'ANFPG a mis en place une boutique solidaire et offre à 8 joueurs tous les mois des kits alimentaires, du riz, des conserves ou encore de l'huile, d'une valeur d'environ 30 000 francs CFA, soit 45 euros. Une aide précieuse pour des personnes comme Chico Sassou, pour l'aider à nourrir son enfant et sa petite amie, tout en cherchant des petits boulots à côté, en attendant des jours meilleurs.
Et j'ajoute Ali Farhat qu'en demi-finale, retour de la Ligue des Champions, Manchester City reçoit cet après-midi, ce soir, le PSG. À l'aller, les Parisiens s'étaient inclinés à domicile, 2-1, un match qui promet donc, et j'ajoute également que le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a entamé hier lundi une visite en Afrique de l'Ouest, et première étape de cette visite, la Côte d'Ivoire, où il devrait lancer le championnat d'Afrique interscolaire.
Voilà, le président de la CAF qui est d'origine sud-africaine, voilà, qui vient d'être élu il y a quelques semaines. Voilà. Information encore en bref avant de passer à la dernière rubrique de cette édition. Le chef du Front Polisario, Brahim Ghali, qui est hospitalisé en Espagne et faisait l'objet d'une plainte pour torture. Il est convoqué demain, mercredi, devant la justice en raison d'une plainte déposée par Fadel Braika, qui est un dissident naturalisé espagnol du Front Polisario.
L'Afrique qui bouge. Reportage économique.
Les commerçantes transfrontalières entre le Burundi et ses voisins souffrent des conséquences de la fermeture des frontières terrestres. Georges Ibrahim Toukara.
Provoquée par la lutte contre la Covid-19, cette mesure les a forcés à interrompre toute traversée des frontières depuis plus d'une année. Une situation qui leur rend la vie difficile. Les explications d'Antéditest Niragira, notre correspondant à Bujumbura.
Le petit commerce transfrontalier, le business exercé par les femmes vivant aux frontières entre le Burundi et ses pays voisins. Au moins 600 femmes exerçaient ce petit commerce avant l'explosion de la Covid-19. Depuis 2004, Redem Tapu Chemezé effectuait des allers-retours entre le Burundi et la République démocratique du Congo, pratiquant d'intenses petites activités commerciales pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle allait vendre divers produits de l'autre côté de la frontière, d'où elle ramenait différentes autres marchandises pour les revendre sur le territoire burundais. Mais cette petite commerçante transfrontalière a été contrainte de tout arrêter depuis la fermeture des frontières, cela fait déjà plus d'une année.
J'avais un capital de 500 000 francs burundais. J'achetais de l'eau minérale et les jus pour aller les revendre au Congo. Je pouvais gagner 30 000 hors dépenses ou 50 000 francs burundais. Tout dépendait de la situation du marché. Au retour à la frontière, on payait les taxes selon la valeur des marchandises importées. Là, nous mettions ensemble nos importations pour payer le forfait de taxes. J'ai consommé toutes mes économies. Même si je décidais de reprendre mon commerce, j'aurais du mal à trouver le capital pour démarrer.
Solange Chimilimana, elle, était encore élève lorsqu'elle a commencé son petit business transfrontalier pour subvenir à ses besoins. La fermeture des frontières l'a également contrainte à la chute avant de servir malgré elle le marché local.
Je vendais des fruits entre le Burundi et la RDC. Je venais juste de commencer avec un capital de 30 000. J'étais arrivée à 50 000 francs burundais. Je travaillais deux ou trois fois la semaine et sur la même durée, je gagnais entre 25 et 30 000 francs. Avec la fermeture des frontières terrestres, la vie a vraiment basculé et nous menons un mode de vie différent. Nous avons décidé de nous réunir en coopérative.
Le petit commerce transfrontalier était beaucoup plus rentable pour les commerçants du fait que les transactions se faisaient en monnaie étrangère dont la valeur était supérieure à la monnaie locale. Pour Anne et Marie-Chimine Mahana, mère de trois enfants, la réouverture des frontières terrestres, même conditionnée, viendrait en sauveur de petites commerçantes transfrontalières désœuvrées depuis plus d'une année.
Prenons un article qui coûte 700 francs burundais à l'approvisionnement. Une fois au Congo, il se vendait à 1600 francs après le change en monnaie locale. Les dépenses pouvaient s'évaluer à 300 francs et on avait ainsi un bénéfice de 600 francs. Nous demandons la réouverture des frontières parce que la précarité nous mine vraiment.
L'arrêt de l'activité économique a provoqué la dislocation de certaines familles jusqu'au suicide. Ainsi, l'Association des femmes rapatriées du Burundi, qui est une organisation coach de ces commerçantes, s'est engagée à les assister. Kodeli Vemanirakiza, représentante légale de la Frabou, revient sur le manque à gagner enregistré du point de vue économique sur le petit commerce transfrontalier.
Ce sont des femmes dont le capital n'excède pas 2000 dollars. Ces femmes à faible revenu, il y en a qui ont un capital de moins de 50 dollars même, traversent la frontière plusieurs fois avec un petit panier de petites quantités de marchandises. Elles font des navettes entre les deux frontières. Avec la COVID, il y a eu fermeture des frontières. Et ça a un impact très négatif au niveau économique. L'une qui faisait vivre la famille n'amène plus rien à la famille. Ça a dévalorisé la femme parce que la femme est maintenant devenue commandeur. Elles ne sont plus des entrepreneurs comme elles l'étaient avant la COVID. Elles ne sont plus des fournisseurs de la vie au niveau économique.
Les commerçantes burundaises transfrontalières faisaient des navettes du Burundi vers la Tanzanie, la République démocratique du Congo ou encore le Rwanda. Pour Winifred Katihabga, responsable du projet COVID-19, réponse rapide dans la région des Grands Lacs, ces femmes nécessitent un appui pour lancer leur commerce.
Leurs maris sont enfermés de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire à l'RD Congo. Aussi, les prix ont augmenté suite à la fermeture de ces frontières. Avec cet impact économique, ça a directement un impact social, puisque dans le foyer, quand tu n'as rien, la femme n'a plus sa valeur dans son foyer. L'État aussi perd, les taxes diminuent. Pour que ces femmes puissent relancer leur commerce, il faut qu'il y ait des partenaires qui puissent les assister.
L'Association des femmes rapatriées du Burundi fait la sensibilisation et le plaidoyer auprès de ses partenaires intervenant dans le secteur pour voler au secours des commerçantes transfrontalières afin de relancer l'activité économique et redynamiser leurs économies. En Tédité, c'était Néla Gila à Bujumbura pour la Deutsche Welle.
Voilà, Info Matin, c'est bientôt le terminus. Georges Ibrahim Tunkara est en train de s'affairer pour justement, il règle ses notes, il arrange ses notes pour nous rappeler les principaux titres de l'actualité. Allez-y, Georges Ibrahim.
Alors, à retenir dans l'actualité de ce 4 mai, la transition politique qui se met en place au Tchad. Deux semaines après le décès du président Idriss Déby Itno, la mission du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine poursuit ses consultations à N'Djamena. Également dans l'actualité, le Burkina Faso, une trentaine de morts dans une nouvelle attaque djihadiste dans le nord du pays. La République démocratique du Congo, l'état de siège qui entre en vigueur ce jeudi pour 30 jours dans le nord Kivu et dans l'Ituri. Et puis l'Inde où la catastrophe sanitaire se poursuit avec de nouveaux records.
Et puis une bonne nouvelle pour les voyageurs non européens, notamment les Africains. La Commission européenne propose d'ouvrir les frontières donc de l'Union européenne aux voyageurs vaccinés. Seraient autorisés à entrer sans condition dans l'UE toutes les personnes pouvant prouver une vaccination complète. Voilà, c'est tout pour Info Matin présenté ou co-présenté par Georges Ibrahim Tunkara et Eric Topona. Je vais vous laisser méditer sur ce proverbe tchadien. La franchise ne consiste pas à dire tout ce que l'on pense, mais à penser tout ce que l'on dit. Alors, Georges Ibrahim Tunkara, je sais que vous avez toujours été franc, hein?
On essaie j'essaie d'être toujours franc. Et on essaie, il faut toujours essayer.
Je vous encourage, hein, je vous encourage à demeurer ainsi. Alors, bonne journée à toutes et à tous.
Tchuss.
Tchuss.
Et à ce soir, 17h temps universel.